Anne-Émilie qui a l'habitude, donc depuis 2 semaines, 2, 3 semaines, de nous présenter par sa lucarne le Pakistan, avec à chaque fois une thématique particulière. Alors Anne-Émilie, nous t'écoutons.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, oui, on se met à l'heure pakistanaise. Et cette semaine, j'ai choisi de m'intéresser à la diaspora pakistanaise. J'avais parlé de l'immigration des étrangers au Pakistan la semaine passée. Et là, j'ai décidé de rester dans le thème. Et aujourd'hui, j'ai choisi les Pakistanais qui tentent leur chance à l'étranger. En tout, et même si trouver des chiffres à ce sujet n'est pas facile, plus de 9 millions de Pakistanais vivraient à l'étranger de manière légale.
Et c'est pas évident, juste parce qu'ils sont pas forcément recensés dans les différents consulats, ils ont pas la...
C'est pas évident parce qu'il y a peu d'études, il y a peu de... Disons que les sciences sociales ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe au Pakistan. Et d'ailleurs, au Pakistan, ça n'existe pas, les sciences sociales. C'est très difficile de trouver un département de sociologie, par exemple, ou d'anthropologie. C'est pas très vendeur. Voilà. Donc, ça fait 4% de la population du pays, avec 9 millions donc, d'étrangers, de Pakistanais qui sont partis à l'étranger. Et avec ça, ça fait une des diasporas les plus larges au monde. Dans cette diaspora, on peut distinguer trois groupes. Ceux qui vont au Moyen-Orient, ceux qui vont en Europe et ceux qui préfèrent l'Amérique du Nord. Ou du moins, voici à quoi ressemble la diaspora traditionnelle. Car depuis une grosse dizaine d'années, l'Australie et l'Asie du Sud-Est ont de plus en plus la cote. Il y a tellement à dire sur les Pakistanais à l'étranger que pour ce lundi, je me concentrerai sur ceux qui ont choisi l'Europe. Selon les rares études sur ces communautés en Europe, on estime qu'il y aurait 2,5 millions de Pakistanais établis sur le vieux continent. La Grande-Bretagne est le deuxième pays au monde à la plus forte population pakistanaise, et pour cause, non seulement le Pakistan est une ancienne colonie, mais après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne voulait faire repartir son industrie. Comme il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, les Britanniques ont accueilli de nombreux ouvriers pakistanais, et des étudiants ont suivi le mouvement. Si beaucoup travaillent toujours aujourd'hui comme ouvriers, comme chauffeurs de taxi ou dans la restauration rapide, certains ont gravi les échelons économiques et sociaux. Ils investissent d'ailleurs beaucoup dans l'économie du Pakistan. Quant aux migrants pakistanais qui ont d'importants liens politiques avec leur pays d'origine, ils participent activement à la politique du Pakistan malgré la distance. Ainsi, le MQM, parti considéré par beaucoup comme une mafia et qui contrôle la ville de Karachi, 20-25 millions d'habitants, et ben ça se fait depuis Londres, parce que le dirigeant du parti, Altaf Hussein, y réside. La communauté pakistanaise en Europe joue par ailleurs un rôle énorme dans le financement des partis politiques pakistanais, et les dirigeants de partis visitent ainsi régulièrement les pays européens pour collecter des fonds pour leur campagne. Même si la Grande-Bretagne attire la moitié de ses migrants, en partie parce qu'on y parle l'anglais, d'autres pays européens abritent une forte population pakistanaise. La Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne ou encore le Danemark, et dans une moindre mesure la Norvège et les Pays-Bas, possèdent tous des communautés pakistanaises non négligeables. 10% des habitants d'Oslo ont ainsi des origines pakistanaises. Beaucoup de ressortissantes pakistanaises y excellent à des postes d'ingénieurs ou de docteurs. L'ambassadrice du Pakistan en Norvège en est d'ailleurs très fière, mais dit regretter des mariages forcés par les parents de certaines de ces jeunes femmes. Les hommes auxquels elles seraient mariées viendraient de leur région natale et contrairement à leurs épouses, ils ne seraient pas aussi éduqués et n'aimeraient pas voir celles-ci travailler. Même si la communauté pakistanaise a une longue histoire avec l'Europe et si beaucoup sont bien intégrés, elle reste encore parfois victime de discrimination et de problèmes d'intégration. Une étude pakistanaise menée sur le sujet invoque comme raison une très grande différence culturelle et religieuse. Malgré ces difficultés, l'Europe reste une destination de choix pour beaucoup de Pakistanais éduqués vivant au Pakistan. Une de mes collègues y avait fait son master et pensait qu'à une seule chose, retourner en Angleterre. Mon amie et collègue Aïcha rêve de s'installer en Allemagne avec son futur époux. Une fois que celui-ci y trouvera un travail, son frère a lui-même réalisé un doctorat dans une université allemande. Il a demandé à ne pas rentrer au pays. Il a décidé de rester en Allemagne après s'être trouvé un poste comme chercheur en ingénierie. Mon colocataire à l'époque, Irfan, a une sœur doctorante en biologie. Elle vit en Suède avec son mari. Il a également des oncles qui tiennent des restaurants aux Pays-Bas. un autre colocataire, un frère qui étudie à Londres depuis des années. Il appelle sa famille de moins en moins, ce que regrette son frère, et a fini par leur dire qu'il ne rentrerait pas. Bilawal m'avait admis que via des oncles éloignés, vivant également en Angleterre, il gardait quand même son frère à l'œil. Avec tant de proches au Pakistan, on oublierait presque qu'immigrer en Europe demande une longue procédure, une procédure fastidieuse et sans garantie de succès. Ainsi, la tante de Bilawal, dont tous les frères et sœurs vivent en Europe, a essuyé 9 refus jusqu'à présent. Elle réessaie tous les ans, malgré tout. Quant au visa pour les époux ou épouses, il n'est pas nécessairement plus facile à obtenir. Alexander a 30 ans, il vit en Allemagne, mais il a déménagé il y a 10 ans au Pakistan. Et il y vit et travaille à Lahore. Depuis son mariage il y a 4 ans, il a tenté de nombreuses fois de se rendre en Allemagne avec son épouse pakistanaise, mais il finit toujours par acheter un seul billet d'avion pour rendre visite à ses parents. Malgré jusqu'à 100 euros de frais de procédure par tentative, le dossier de son épouse n'a jamais été accepté et elle n'a jamais été remboursée. Elle persévère quand même et continue à verser des lourdes sommes dans l'espoir un jour d'enfin voir la maison de ses beaux-parents.
On ne dit jamais les raisons du refus de...
Parfois, on les dit, mais non, en général, on ne les dit pas. Et par exemple, j'avais un ami journaliste donc pakistanais qui travaillait dans un des plus grands journaux anglophones du pays. Et lui, il essayait de partir via des stages et des colloques à l'étranger. Et par exemple, il avait essayé en Espagne, où il avait été invité. Donc, il faut recevoir une lettre d'invitation hein, pour avoir un visa, voilà. Même pour un visa de visite, etc. Et il a dit, j'ai vraiment été déçu par l'Espagne parce qu'ils ne m'ont donné aucune réponse. Et quand ils m'en ont donné une, il n'y avait pas de raison. Donc, souvent, on ne donne pas de réponse et pas de, comment dire, pas d'explication. Mais quand on donne une réponse négative, lui, il estimait qu'il avait le droit de savoir pourquoi. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc voilà. Mais ça, c'est le cas pour de nombreuses personnes, toutes les familles que j'ai rencontrées. Donc, les gens qui étaient capables de parler anglais, c'est déjà même pas 20% de la population. Hein, c'est les gens qui ont la chance de pouvoir avoir une éducation primaire.
Pas tous les Pakistanais qui parlent anglais.
Non. Déjà, il y a plus de 50% de la population, enfin 50% de la population, je vais dire, qui sont illettrés. Donc, à partir de ce moment-là, ils parlent souvent donc des langues locales, des langues régionales. Certains ne parlent même pas la langue nationale, l'ourdou, une variante de l'hindi, donc langue nationale en Inde avec l'anglais. Alors que l'anglais reste une langue véhiculaire. Donc déjà, bon, il faut avoir un certain niveau d'éducation pour parler anglais. Et donc, ces gens que j'ai rencontrés, il y en a... Enfin, je pense que j'en connais pas un qui n'a pas au moins un membre de sa famille à l'étranger. La diaspora est énorme et tout ce qu'ils espèrent avec une éducation universitaire via un programme de master ou de doctorat ou peu importe, c'est pouvoir essayer de s'installer à l'étranger.
Et quand justement les étudiants quittent le Pakistan pour aller étudier dans d'autres pays, le fait d'obtenir ce diplôme en Espagne ou en Grande-Bretagne ou autre ne facilite pas par la suite l'obtention d'un visa de travail.
Ça peut. Par exemple, il y en a qui, quand ils font un doctorat, après, c'est plus facile d'avoir un poste comme post-doctorant, donc de chercheur, etc. Ça, c'est les cas les plus fréquents que moi, j'ai rencontrés. Maintenant, effectivement, de s'installer là-bas et d'avoir un boulot je ne sais pas moi, avocat, etc., c'est plus difficile. Et surtout que les diplômes là-bas sont... Enfin, les diplômes pakistanais sont rarement reconnus tels quels. Donc, en général, il faut faire après une formation complémentaire, etc., pour avoir une équivalence. Donc,
ça, c'est quand ils viennent avec déjà leur diplôme, mais parfois, ils obtiennent le diplôme
oui.
du pays.
Oui. Quand ils obtiennent le diplôme, c'est plus facile. Ouais. C'est clair que c'est plus facile. Et parfois, c'est la seule solution. Donc, il y en a qui essayent de... par exemple, bon, j'en parlerai la semaine prochaine plus en détail, mais au Canada, ne peuvent rentrer que ceux qui ont soit déjà travaillé au Canada, ouais. soit qui s'inscrivent dans une formation complémentaire.
D'accord.
Donc, c'est la seule manière de le faire. Du coup, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile pour des gens qui, par exemple, veulent être coiffeurs et qui ont de l'expérience au Pakistan, mais qui n'en ont pas au Canada. C'est difficile d'avoir une première expérience si on ne peut pas entrer dans le pays.
Oui. Donc... Et par rapport au Royaume-Uni et son statut d'ancien colonisateur du Pakistan, il n'y a pas de facilité, puisque c'est quand même, comme tu dis, le deuxième pays où il y a le plus de Pakistanais. Est-ce qu'il n'y a pas plus de souplesse
Oui.
Le regroupement familial fonctionne davantage, je ne sais pas.
Oui, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile parce que, tout simplement, ils sont là depuis plus longtemps, en nombre. Donc, comme après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait vraiment une... Enfin, je ne vais pas dire un exode massif, mais il y avait vraiment un appel à tous ces migrants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nulle part d'ailleurs. Donc, à part en Malaisie, etc., où là, pour développer l'économie de ces pays-là, mais c'est récent. Donc,
c'est là où tu ciblais l'Asie du Sud-Est et l'Australie. C'est par rapport à l'économie, enfin peut-être moins pour l'Australie, mais pour, Malaisie.
La Malaisie, pour le Moyen-Orient en général, c'est par exemple au Moyen-Orient, il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations. Ils vont travailler au Moyen-Orient et puis on ne les assimile pas du tout, on ne les intègre pas du tout. En fait, c'est vraiment, vous restez là, vous avez vos propres... Par exemple...
Et est-ce qu'ils font les basses besognes
Oui.
Et d'accord, souvent, ils ne viennent pas comme ingénieurs ou...
Non. Même avec un diplôme, ils ne gagnent pas... Enfin, ils font des boulots pour lesquels ils sont trop qualifiés. Et ça, c'est pareil au Canada, par exemple. Ça arrive de plus en plus souvent parce que c'est très difficile, à moins de vraiment investir. Et donc, ça veut dire mettre de grosses sommes d'argent que souvent... ils n'ont pas, pour vraiment se dire, bon, alors je tente tout au Canada et je fais une formation complémentaire et après, j'essaierai d'avoir un boulot par cette voie-là. Sinon, c'est difficile.
Et juste par curiosité, tu parlais de 10% d'habitants d'Oslo qui ont des origines pakistanaises. Ça me semble, ça paraît beaucoup. Est-ce qu'on sait pourquoi en Norvège, il y a une...
Je l'ignore. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais que pour avoir... De mon expérience, dans les pays scandinaves, donc principalement en Suède et en Norvège, il y a beaucoup de programmes, pas de master, mais vraiment dans la recherche scientifique, où là ils font des énormes appels d'offres. Que ce soit ils peuvent être du Bangladesh, d'Inde, du Pakistan. Là, il y a aucune discrimination. Il y a pas du tout. C'est pas comme chez nous où les places pour les doctorats et pour les chercheurs sont plus difficiles à obtenir. Là-bas, on pousse vraiment à la recherche. C'est un peu le même modèle que dans les pays, je vais dire anglo-américains, enfin anglo-saxons, peu importe. Et donc, comme on pousse plus à la recherche, il y a une plus grande appel d'offres. Et donc, évidemment, les gens qui peuvent se permettre d'avoir un doctorat là-bas et qui, après, veulent rester, on leur dit, viens travailler dans nos laboratoires. Tu restes dans le même encadrement, dans la même démarche académique. Et voilà, mais ça arrive aussi avec des Français, des Européens de l'Ouest, on va dire, de l'Ouest de l'Europe occidentale, qui peuvent trouver des postes comme chercheurs dans les pays scandinaves.
D'accord. Et si on retourne ici à Bruxelles, est-ce que la communauté... il y a probablement des Pakistanais, mais est-ce qu'elle se regroupe comme d'autres communautés dans certains quartiers ou elle est un peu plus diffuse? Est-ce que tu en sais un peu plus?
J'ai rencontré, depuis mon retour, je vois les choses complètement différemment. Mais par exemple, nous, on dit toujours, j'aime pas le dire, mais on dit on va chez le Paki, on va au Paki. Ça veut dire quelque chose aussi, de dire bon, en général, On se retrouve, c'est la petite restauration ou les night shops, effectivement. Mais ce n'est pas que des Pakistanais, d'ailleurs, dans la drache musicale d'il y a un mois, je crois.
L'émission à 17h le lundi.
Exactement, c'était justement les iPhones ou les iPods, je ne sais plus.
Les lecteurs.
Les MP3 des Pakistanais, des Indiens, des Birmans. Et donc, en fait, c'est effectivement dans cette région sud-asiatique, un peu moins le sud-est, mais centre, Asie centrale, Asie du Sud, où là, effectivement, ils se retrouvent tous là-dedans. Pourquoi ? Parce que, tous là-dedans, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que le premier vendeur de kebab où je suis allée en rentrant du Pakistan était du Bangladesh. Et son boss était du Pakistan. Et son boss tenait aussi son patron tenait aussi un nightshop juste à côté et employait d'autres Pakistanais qui sont pas spécialement, qui connaît pas à la base. Hein, c'est pas des membres de sa famille ou quoi. Mais il y a une communauté qui se forme, qui se développe et avec les Indiens, etc. Alors que par exemple au Pakistan, en Inde, c'est très tabou de dire qu'on a des amis indiens, pakistanais. C'est très, très... de par leur histoire et les guerres qui ont suivi la création du Pakistan, les relations sont encore très tendues, je vais dire. Alors qu'ici, et je le disais à mes amis, c'est pas du tout comme ça. Quand je les appelle ou je les ai sur Skype, je leur dis, ici, c'est pas comme ça. Ils travaillent entre eux parce qu'en fait, on se rend compte que quand on s'éloigne de chez soi, ben ouais, il y a quand même avec nos voisins, on a quand même des similarités culturelles. On se retrouve autour de certaines nourritures, certaines manières de voir les choses, certaines manières de fonctionner. Donc
il y a probablement des tensions vécues localement dans le pays. Exactement. Ou au pays voisin.
On est confronté.
Ça nuise quand on devient expatrié et qu'on on vit loin de sa région et que là on retrouve certaines, comme tu dis. Familiarité ou en tout cas
parce que en fait ils se retrouvent dans une situation où ils sont tous confrontés à la même chose, à une différence culturelle. On peut pas la nier, c'est énorme. Je suis arrivée au Pakistan, c'est pas du tout occidentalisé comme pourrait l'être la Chine ou la Thaïlande, etc. Ouais, tout le monde dit choc culturel. Oui, mais non, parce qu'il y a peu de censure dans ces pays-là. En Chine, je m'excuse, il y a quand même beaucoup de censure, mais tout le monde a un iPhone, tout le monde est sûr. Bon, ils ne sont pas sur Facebook, mais ils trouvent d'autres manières de s'informer et de se tenir dans la même mouvance. Alors qu'au Pakistan, ce n'est pas du tout comme ça. Comme les gens n'ont pas d'électricité, comme les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas de ressources. Comment est-ce qu'ils peuvent même s'intéresser à ce que font leurs voisins? Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'étrangers. Il y a très très peu d'étrangers. J'en parlais la semaine passée. Il y en a très très peu dans le Pakistan. Du coup, c'est très difficile comment s'ouvrir à l'autre si on ne peut pas sortir du pays et si personne ne vient à notre rencontre. C'est très difficile. Donc en fait, moi j'ai eu un vrai choc culturel. Et quand eux arrivent ici, même si oui, ils disent « ouais, on regarde des séries, on regarde des films », oui, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc, quand eux arrivent ici, ils se rendent compte, ah ouais, ok, on est confrontés à quelque chose qui est différent. Du coup, mon voisin qui est indien ou qui est bangladais a peut-être été confronté aux mêmes problèmes ou aux mêmes situations de vie. C'est pas spécialement des problèmes, mais c'est des choses qui se font différemment. Du coup, il va peut-être pouvoir m'aider, il pourra peut-être me donner des pistons. Et il faut savoir aussi, ça vaut pour tout Pakistanais qui va à l'étranger et qui s'installe à l'étranger. On fait tout par rapport à la communauté. Tout le monde vit en communauté là-bas. Par exemple, le plus important, c'est la famille. Pas la famille comme nous, on la voit, papa, maman. Bon, déjà, il y a beaucoup de frères et sœurs, mais c'est vraiment un réseau. C'est tout un réseau de familles, effectivement, avec les cousins éloignés, et puis les cousins de 4e, 5e degré, tout le monde se connaît. Et ils ont des noms, par exemple, pour dire cousin du 1er degré, il y a un mot particulier. Pour dire cousin du 5e degré, plus jeune cousin du 5e degré, il y a encore un mot. Donc c'est pour dire que c'est hyper important, et tout se fait par rapport à ça. Il n'y a pas de sécurité sociale, on ne peut pas compter sur l'État, à moins d'être dans la fonction publique, et encore. Du coup, on compte sur les membres de sa famille. Et c'est pareil au niveau professionnel. Et du coup, quand on peut aller à l'étranger, on va d'abord là où on connaît des gens. Ou même si ce n'est pas quelqu'un de ma famille directe, mon père connaîtra quelqu'un ou un tel connaîtra un tel et me mettra en relation avec cette personne. Du coup, je pense que ça joue aussi.
Et pour revenir au paquet, entre guillemets, qui possède un nightshop ou une petite restauration, est-ce qu'au départ, c'est leur souhait, c'est leur volonté première de faire ce travail-là, ou c'est par défaut, ou par c'est devenu une habitude, ou par justement ce réseau qui les amène directement dans cette branche-là, et que s'ils ont, je ne sais pas, un diplôme, enfin voilà, quel qu'il soit, ils ne puissent pas, ou enfin une expérience professionnelle, ils ne puissent pas l'exercer en Belgique, à Bruxelles, par exemple, pour parler d'ici.
Je ne sais pas exactement. J'ai pas eu l'occasion de leur demander. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a une grande différence entre un diplôme pakistanais et un diplôme belge. L'ingénierie est pas du tout, par exemple, je pense aux ingénieurs ou je pense à des choses qui peuvent facilement s'exporter, entre guillemets. Parce que bon, un ingénieur est un ingénieur, on en a besoin, on en a pas besoin. Il faut pas spécialement savoir parler une langue ou peu importe, du moment qu'on a l'anglais, bon, voilà. C'est vrai, il y a une grande différence de niveau. On ne va pas se mentir, une énorme différence de niveau et il n'y a pas d'équivalence. Du coup, je pense que des gens qui imaginent qu'avec un diplôme en marketing du Pakistan, ils peuvent peut-être tenter leur chance ici, ils se retrouvent confrontés à déjà un marché qui est difficile parce que même pour les ressortissants belges, c'est difficile. Du coup, on leur dit, ouais, t'es pakistanais, t'as eu ton diplôme de là, bon, t'es bien gentil, mais on peut rien faire pour toi. Et donc, ils vont peut-être lancer, je ne doute pas que, par exemple, ce Pakistanais qui avait donc deux petits commerces à son nom, quoi, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Donc, c'est quelque chose qu'il a peut-être pu faire et il pourra peut-être aider d'autres. Donc, c'est, je ne vais pas dire que c'est du marketing ou peu importe, mais il pourra peut-être aider d'autres personnes qui, elles, ont eu du mal, qui pensaient directement pouvoir s'exporter et exporter leurs compétences. Et peut-être, par une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance de fournisseurs, etc., pouvoir aider cette personne. Mais oui, je ne sais pas exactement si... je ne sais pas exactement si c'était leur choix premier... Mais je pense que ça aide clairement, d'avoir des gens dans ces commerces-là et de savoir qu'on peut tomber sur eux, compter sur eux dans un premier temps pour se lancer. Et puis après, si jamais ça ne marche pas, bah, on peut compter sur eux aussi.
D'accord. Merci beaucoup, Anne-Émilie. Et peut-être qu'une prochaine fois, tu viendras accompagner d'un ou d'une
Pakistanais. Ce serait bien, oui.
On aimerait ça.
Ok, parfait.
Eh bien, à la semaine prochaine, alors.
Oui, à la semaine prochaine.